Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 de France Inter commence comme il se doit parce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 25 octobre avec le journal d'Hélène Fromanti. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence sur ce rapport décisif pour l'avenir énergétique de la France.
Oui, rapport très attendu du gestionnaire du réseau électrique français RTE pour choisir notre système de production d'énergie à l'horizon 2050. On va décrypter dans ce journal les différents scénarios possibles. Après l'essence, le tour de la baguette, les prix pourraient grimper à la boulangerie. Nous serons chez un boulanger périgourdin qui fait de la pédagogie avec sa clientèle. Nous irons aussi en Turquie, peut-être un rétropédalage en vue de l'administration Erdogan dans l'affaire des diplomates occidentaux menacés d'expulsion. Et puis le prix littéraire Femina décerné à Clara Dupont-Mono que vous connaissez bien, vous auditeurs de France Inter. Elle dédie sa récompense aux personnes handicapées. Nous l'entendrons en fin de journal, Fabienne.
À 18h15, un jour dans le monde au Soudan ce soir qui vient d'être victime d'un coup d'État et donc aussi d'un coup d'arrêt de la transition qui devait mener à des élections en 2023. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne, vous en parliez. On en parle aussi de ce fameux rapport de RTE avec Xavier Piechazik, c'est le président du directoire de RTE France. Les 6 scénarios du 100% renouvelable au 50% nucléaire qui font déjà l'objet de débats. On en discute ensemble, le standard est ouvert et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Après 2 années de travail donc et des dizaines de réunions et concertations,
le gestionnaire du réseau électrique français a donc rendu aujourd'hui ses conclusions sur l'avenir énergétique de notre pays. Pour le dire simplement, RTE a tenté de répondre à cette question. Comment peut-on concrètement remplacer demain le pétrole et le charbon par l'électricité et atteindre la neutralité carbone en 2050? Le gestionnaire a ainsi présenté 6 scénarios à destination des décideurs. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Manuel, vous avez parcouru ces 6 scénarios. Comment fait-on pour arriver à cette fameuse neutralité carbone?
Alors, il y a 2 enjeux en fait. Garantir la neutralité carbone, c'est évidemment la première donnée. Et il y en a une seconde, garantir la sécurité de l'approvisionnement du pays en 2050, exactement comme aujourd'hui. Et pour se passer des énergies fossiles, il faut donc développer l'électricité qui va devenir la principale source d'énergie de 2050. Donc le défi, c'est de produire bien plus, 35% de plus qu'aujourd'hui. Et comment le fait-on? Avec des énergies renouvelables, avec du nucléaire, et quelle part de l'un et l'autre? On appelle ça le mix énergétique. Et voici donc nos 6 scénarios élaborés par RTE, de celui qui ne compte que sur les énergies renouvelables à celui qui s'appuie le plus sur l'industrie nucléaire. Tous dépendent de plusieurs sources d'énergie, tous garantissent cette sécurité de l'approvisionnement. 3 impliquent la construction de nouveaux réacteurs et 3 autres non.
Au bout du compte, Manuel, on l'a dit, c'est le gouvernement qui tranchera. Mais d'ores et déjà, quelles conclusions peut-on tirer de ce travail de RTE?
Alors d'abord, quel que soit le scénario choisi, il va falloir des énergies renouvelables à grande échelle. Donc il faut s'y lancer massivement et très vite, dit le rapport. Ensuite, quand on ne prend en compte que le coût, ce sont les scénarios qui impliquent de nouveaux réacteurs nucléaires qui sont les moins chers, même avec le traitement des déchets et le démantèlement des anciennes installations. Le coût du mégawatt, lui, dans tous les scénarios, ne devrait progresser que de 15% et la facture du consommateur ne devrait pas exploser grâce aux économies qu'il fera en se passant de pétrole et de gaz.
Manuel Ruffez, merci pour ce décryptage.
Plus 2, 3, 5, peut-être jusqu'à 10 centimes pour une baguette.
Après les carburants, c'est au tour du pain de voir ses prix peut-être augmenter demain. Car tous les voyants sont au rouge. Le prix du blé, d'abord, plus 30% en un an. Et aussi celui de la farine, de l'énergie, les salaires, les tarifs des produits d'emballage qui augmentent. Bref, dans certaines boulangeries, on observe déjà une augmentation de 5 centimes sur certaines baguettes. Comme chez ce boulanger de Périgueux qui a décidé de jouer la carte de la transparence avec ses clients en affichant clairement pourquoi les tarifs bondissent. C'est un reportage de Xavier Dalmont.
L'affichette est en forme de baguette. Le quignon, soit 29%, représente les achats des matières premières. Laurent Schwind est boulanger à Périgueux.
J'ai mis cette affichette parce que j'ai des moulins de Paris à qui je travaille, qui m'ont annoncé une augmentation, une deuxième là en peu de temps.
Une augmentation de quelques centimes sur certaines baguettes, c'était devenu une obligation.
Toute la matière première augmente. Le blé augmente, aussi bien même le beurre, les œufs, tout augmente. Surtout que nous, ça fait 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais augmenté.
Au total, 5 centimes de plus par baguette.
Sur certaines baguettes, pas toutes. Il y a des clients qui font des réflexions. C'est pour ça que les affichettes sont là, pour bien leur montrer qu'au final, c'est pas nous les plus riches, quoi. Y a un impact pour nous, quoi, hein. Et après pour les clients.
À l'autre bout du pain, c'est ce qu'il reste au boulanger pour vivre. un petit quignon d'à peine 12%.
Le reportage de Xavier Dalmont de France Bleu Périgord. Et pour autant, le patron des boulangers pâtissiers français lui se veut rassurant. Il exclut une flambée générale des prix. Dans deux semaines, nous pourrons, nous, Européens, de nouveau traverser l'Atlantique, direction les États-Unis. Cela fera environ un an et demi depuis mars 2020 que l'administration Biden aura stoppé les voyages au pays de l'oncle Sam. Alors cette reprise, elle se fera sous condition. Il faudra être totalement vacciné contre le coronavirus avec un sérum reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé, avoir aussi réalisé un test PCR 72 heures avant le départ et aussi porter un masque de protection. Quelles que soient ces contraintes, pour les professionnels du voyage et compagnies aériennes, cette réouverture des frontières est une bonne nouvelle, Philippe Lefebvre.
Les patrons de compagnies françaises évoquent pour 2021 une baisse proche de 60% du chiffre d'affaires de l'ensemble des compagnies aériennes hexagonales par rapport, bien entendu, à la situation de 2019. Et si l'été a été relativement bon pour les compagnies low cost, en revanche, pour les vols long courrier, la situation reste complexe, reconnaît Alain Battisti, c'est le président de la Fédération de l'aviation marchande.
L'Asie reste quasiment totalement fermée, l'Amérique du Sud également. On est à moins de 50% du trafic long courrier totalement considéré en France depuis le début du mois de janvier.
Eh bien, maigre consolation s'il n'y a pas beaucoup de passagers. En revanche, les avions transportent beaucoup de colis. Le fret représente un tiers des revenus des compagnies en ce moment, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour relancer les entreprises lourdement pénalisées par les taxes, selon Pascal de Izaguir, le PDG de Corsair.
Les services de navigation aérienne, les aéroports, tout le monde, évidemment, veut se refaire une santé, mais en quelque sorte sur le dos des compagnies aériennes. Donc on a des augmentations de taxes qui sont prévues exubérantes pour la navigation aérienne, de l'ordre de 30 à 40%, voire plus. Ça n'est pas supportable financièrement.
Et toutes les compagnies demandent également au gouvernement de repousser à 2023, voire 2024, les premiers remboursements des prêts accordés au plus fort de la crise.
Les prévisions de Philippe Lefebvre.
Des milliers de véhicules se sont retrouvés bloqués hier soir et ce matin sur la 13.
En cause, 300 mètres de câbles dérobés dans un tunnel à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Retour à la normale pas prévu pour tout de suite, pas avant 24 à 48 heures, alors qu'habituellement, près de 100 000 véhicules franchissent ce tunnel chaque jour. 24 heures après cet événement, les circonstances du vol sont encore floues. Les câbles dérobés servaient à l'alimentation des ventilateurs de désenfumage en cas d'incendie. Camille Remy est en charge de l'exploitation et de la maintenance de ce tunnel. Elle fait le point sur les premiers éléments.
Les ventilateurs sont situés dans un local technique à l'extérieur du tunnel, donc c'est pas directement dans le tunnel, à côté du tunnel pour être précis. Les voleurs ont dérobé du câble en le coupant petite section par petite section vraisemblablement et en évacuant le tout par une camionnette et par la voirie au-dessus du tunnel. Dans le tunnel, on est capable de détecter un arrêt de véhicule. Maintenant, quand ils passent sur les voiries communales ou départementales, ça sort de notre domaine de compétence et on n'a pas de caméra sur ces endroits-là et ni dans les locaux techniques. On va déposer une plainte au nom de la DIRIF et ensuite... Ça sera l'enquête de police qui permettra de déterminer qui sont ces gens qui ont commis ces méfaits, par où ils sont passés, etc., de répondre à tout ce genre de questions. Sur un préjudice similaire qu'on a subi il y a environ un mois sur un autre tunnel, on estime le montant de la fourniture du câble et des réparations à plus de 200 000 euros.
À 18h et presque 9, Hélène Fromanti, la Turquie va-t-elle expulser de son territoire 10 diplomates occidentaux, dont l'ambassadeur français à Istanbul?
La question devait être tranchée dans la journée avec une réunion au sommet autour de Recep Tayyip Erdogan. Mais à l'heure actuelle, toujours, cette question est toujours en suspens. Ce week-end, le président turc a menacé d'expulsion ces 10 diplomates qui ont pris la défense en début de semaine dernière de l'opposant Osman Kavala, emprisonné en Turquie depuis 4 ans, sans jugement. Mais aux dernières nouvelles, la présidence turque semblait opter pour une désescalade. À Istanbul, la correspondance d'Anne Lauer.
Voilà qui ressemble à s'y méprendre à un scénario de sortie de crise mis en scène pour permettre à Recep Tayyip Erdogan de revenir sur sa promesse d'expulser 10 ambassadeurs sans trop perdre la face devant l'opinion publique turque. Alors que le chef de l'État était en train de présider un conseil des ministres, l'ambassade des États-Unis a affirmé sur son compte Twitter son attachement à l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures du pays hôte. Les autres ambassades, dont celles de France et d'Allemagne, ont ensuite retweeté le message des États-Unis. Un geste aussitôt accueilli positivement par Tayyip Erdogan, selon des sources présidentielles, tandis que la presse pro-gouvernementale annonçait triomphale « ils ont fait marche arrière ». Sur les réseaux sociaux, d'autres observateurs, y compris d'anciens diplomates turcs, y voyaient plutôt une main tendue de la part des Occidentaux à Recep Tayyip Erdogan pour éviter les conséquences graves, en particulier sur l'économie turque, du renvoi inédit de 10 ambassadeurs. Anand Loire, Istanbul, RFI pour France Inter.
Au Soudan, les affrontements de protestations contre le coup d'état de l'armée ont fait 2 morts et au moins 80 blessés aujourd'hui à Khartoum. Plus tôt dans la journée, l'état d'urgence a été décrété, le gouvernement dissous, suscitant une vaste condamnation à l'international. Nous serons sur place à Khartoum dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Et juste avant, même à 18h15, d'un jour dans le monde, l'avenir de l'industrie française ne se fera pas sans
des usines modernes hébergeant des robots dotés d'intelligence artificielle. Et pour financer l'industrie de demain, le gouvernement va débloquer une enveloppe de 800 millions d'euros. Emmanuel Macron l'a annoncé ce midi lors d'une visite dans la Loire, dans une usine de robotique à Saint-Étienne. Lors de ce premier déplacement consacré au plan d'investissement France 2030, le chef de l'État s'est aussi rendu dans la commune de Montbrison sur le chantier de réhabilitation d'une friche. Simon Le Baron, bonsoir. Le chef de l'État a en fait jonglé, Simon, entre annonces pour l'avenir et du quotidien.
Et le futur, ce sont ces robots que le président veut développer.
C'est vous qui vous occupez de celui-là ?
Voilà.
Qu'est-ce qu'il fait, lui ?
Alors, ce robot, en fait, il va aller dans une fromagerie. On va venir mouler du fromage.
800 millions d'euros pour le secteur. Emmanuel Macron a prévu dans les prochaines semaines de dérouler comme cela son plan France 2030 qui lui permet d'exalter la grandeur industrielle retrouvée.
On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l'industrie qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. On va le faire en développant une industrie qu'on est en train d'inventer, qui sera beaucoup moins pénible, mais où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée.
Et le quotidien, c'est à Montbrison, à 40 km de Saint-Étienne. Le chantier de la friche GG, une ancienne usine de poupées bientôt réhabilitée.
Venez, on va regarder sur la maquette comment ça va se passer. On va à la fois garder le patrimoine industriel auquel vous êtes attaché et les logements.
Des logements, des commerces, un pôle médical. Là, c'est le plan lancé en 2018 pour redonner vie à plus de 200 centres-villes qu'est venu promouvoir le chef de l'État. En regardant vers l'avenir, Emmanuel Macron cultive sa différence avec des adversaires accusés d'être déclinistes. En montrant qu'il se préoccupe de la vie de tous les jours, il répond à ceux qui le disent déconnectés.
Bonjour madame, vous allez bien ?
Le en même temps d'un président en campagne.
Simon Le Baron depuis Montbrison dans la Loire avec les moyens techniques de Stéphane Beaufils. C'est l'une des voix de France Inter. Elle dépoussière pour nous chaque dimanche la littérature française dans son émission Livres et Châtiments. Clara Dupont-Monod vient de recevoir le prix Fémina, l'un des premiers prix littéraires de la saison. Le jury composé uniquement de femmes a décidé de récompenser son ouvrage S'adapter, paru aux éditions Stock. Un livre qui raconte l'arrivée d'un enfant handicapé au sein d'une fratrie. Et lors de la proclamation du prix, Clara Dupont-Monod a tout de suite eu une pensée pour les personnes handicapées.
Je voudrais vraiment le dédier aux 12 millions de personnes en France qui sont différentes, qu'on ne voit pas assez, et à leur fratrie, à qui on ne pense pas assez non plus, et à tous ceux qui s'occupent d'eux. Je suis très contente de ce prix parce que c'est un prix de soutien, d'état de veille. Le livre parle de ça. Et puis après, c'est l'histoire aussi de quand un événement extérieur vient torpiller un équilibre qu'on croyait inamovible, et ben comment on fait pour aller puiser en soi des ressources qu'il faut bien avoir pour s'adapter. Moi, ce que j'aime bien dans la fratrie, c'est l'idée qu'on peut vivre la même histoire et selon sa place dans la fratrie, on va vivre une histoire complètement différente. Alors que factuellement parlant, les événements vont être exactement les mêmes. Et selon que vous êtes l'aîné, le cadet, le dernier, vous ne vivrez pas forcément la même histoire. Et il y avait cette idée d'organisme mouvant, souple, que je trouvais très intéressante. Et c'est merveilleux que du coup, on ait pu récompenser ça.
Clara Dupont-Monod, chroniqueuse à France Inter, est désormais lauréate du prix Fémina avec Ilana Mor-Youssef. En ce qui concerne le prix du roman étranger, il est décerné à l'écrivain turc Ahmet Altay et son roman Madame Hayat, écrit en prison. Nous y reviendrons dans le journal de 19h.
Voilà, Clara Dupont-Monod, au passage, et si elle nous écoute, on l'embrasse évidemment,
on la félicite.
Hélène Fromentier.